France Inter.
On entend très souvent, par exemple, que Chine produit plus de 7000 références par jour. Ça, c'est faux. Déjà, l'ensemble des références n'est pas nécessairement produit. Et par ailleurs, on a un système de production en petits lots, 100 à 200 exemplaires pour commencer, et on répond uniquement aux demandes du marché. Non seulement on n'a pas de stock, mais surtout on n'a pas d'invendus et de déchets. Et ça, c'est la première source d'impact environnemental de l'industrie.
C'est la directrice de la communication de Shein en Europe, Marion Bouchu. Elle décortique le modèle économique pour défendre l'idée que sa marque, non, ça n'est pas de l'ultra fast fashion. Alors les députés français n'ont pas été convaincus, l'entreprise chinoise est la première dans le viseur. La proposition de loi contre la mode jetable vient d'être adoptée, interdiction de la pub et malus environnemental. Un premier pas historique, disent les défenseurs de l'environnement. D'accord, mais il va falloir en faire pas mal d'autres. D'abord, pour sortir du flou de la définition, Zara, H&M, Decathlon, fast fashion ou pas? Ensuite, il faudra contrôler la transparence sur les quantités mises en vente. Comment ça va marcher? Et puis enfin, je comprends que le malus serait plafonné à 50% du prix de vente. Alors pour un t-shirt à 6 euros, 3 euros de plus, pas sûr que cela soit vraiment dissuasif. Sur les réseaux sociaux, une nouvelle communauté promeut, elle, le rapiéçage, la réparation, le ravaudage des vêtements, à condition que ça devienne artistique, hein, que ça se voit avec du fil de couleur, des fanfreluches. Peut-être une autre façon de freiner la surconsommation, de redéfinir le cool, le désirable. En attendant, on en est loin. De l'autre côté des Pyrénées, chez nos amis espagnols, au siège d'Inditex, la maison mère de Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, on sable le champagne. 5,4 milliards de bénéfices nets, en hausse de 30%, ça a été annoncé mercredi. Mango aussi bat un record, avec un chiffre d'affaires qui dépasse pour la première fois 3 milliards. La marque compte ouvrir 500 nouvelles boutiques dans le monde.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, c'est le magazine Écho de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec la réalisatrice Céline Hilla, le chargé de programme Valentin Pérez, Corentin Rouchy a signé le mixage et ce matin c'est Tiffany Battistel qui nous accompagne à la console. L'invité du Mag Écho, ce sera le secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot. Question sur les JO, l'assurance chômage, la mobilisation des fonctionnaires mardi prochain, appel à la grève pour les rémunérations et ce que gagnent les agents de la fonction publique. C'est au cœur de la crise des vocations actuelles. Comment y remédier? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Beaucoup de courriers pour vous cette semaine, Madame Vieux-Boulot. Nous avons retenu les questions de 3 auditrices.
Oui, je réponds à Camille, Stéphanie et Delphine sur le déblocage de l'épargne salariale, l'obligation de prendre des congés en cas de fermeture de l'entreprise et le vapotage au bureau.
Camille, Stéphanie et Delphine, toutes les réponses à vos questions, c'est avec Sandrine Foulon. On vous retrouve Sandrine juste avant 10h. Semaine passionnante dans le monde médiatique, encore une fois remodelée par un milliardaire. Le PDG de CMA-CGM rachète BFM TV et RMC, ça a été le coup de théâtre des dernières heures. Et puis bien sûr, on a aussi vécu ça à l'Assemblée nationale face à la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT. On a suivi l'audition de Vincent Bolloré. Ces investissements massifs, cet appétit des grands hommes d'affaires, pourquoi faire? Au nom de la démocratie, les détenteurs du capital des médias privés, est-ce qu'ils doivent être encadrés ou au contraire laissés en paix? Vous avez compris, on s'arrête au chapitre écho dans ce dossier qui revient régulièrement avec Sophie Fay du journal Le Monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Alexandra.
Vous signez un beau papier, un beau portrait de Rodolphe Saadé avec Jean-Michel Beuzat. Dans Le Monde, c'est à lire, je le signale, c'est d'ores et déjà à lire en ligne et puis c'est dans Le Monde daté de demain dimanche. Et je salue également mon confrère du magazine Der Spiegel, Léo Klim. Bonjour Léo.
Bonjour Alexandra.
La concentration des télés, des journaux, des radios dans les mains des milliardaires, eh bien écoutez, c'est tout le débat.
La commission d'enquête a été demandée par la France Insoumise.
Quentin Bataillon, député Renaissance, rapporteur de la commission d'enquête sur la TNT.
Son rôle, c'est d'étudier le cadre de ces chaînes TNT. Ces chaînes TNT, rappelons-le, les fréquences appartiennent à l'État. L'État met à disposition à des sociétés ces fréquences, donc la TNT doit rester un espace protégé et plus réglementé que les autres espaces télévisés, et je pense que c'est extrêmement important.
CNews, depuis 3 mois, est en tête devant BFM.
Vincent Bolloré, homme d'affaires.
Comme BFM vaut beaucoup d'argent et gagne beaucoup d'argent, dit-on, CNews va évidemment se mettre à gagner beaucoup d'argent parce que la télévision gratuite, c'est assez simple, c'est fonction de l'audience. Si vous avez une grosse audience, les gens payent plus cher la publicité que si vous avez une petite audience.
Cette annonce, il y a quelques minutes, de CMA-CGM. Le groupe de Rodolphe Saadé annonce le rachat d'Altice, qui contrôle notamment BFM Télé et RMC. L'armateur accroît ainsi ses participations dans les médias. Il possède déjà, entre autres, le journal La Tribune.
La télévision, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment du projet de fusion entre TF1 et M6, tous les grands groupes de médias étaient intéressés pour racheter M6. Oui.
Richard Sénéjou, journaliste média à Télérama.
Ça veut dire que, là, en l'occurrence, ces chaînes-là gagnent de l'argent et tout le monde voulait y aller. Sur la presse, visiblement, on ne devient plus milliardaire en faisant de la presse, mais oui, on s'achète entre guillemets de l'influence.
La concentration des médias, qu'il s'agisse de la presse, de la télé ou de la radio, entre les mains de quelques milliardaires.
Mathieu Pigas, banquier d'affaires.
Ce qu'il faut faire, je vais vous dire, c'est pour moi assez simple, c'est assurer absolument l'indépendance des rédacteurs d'action de ces médias. C'est ce que l'on a fait avec Xavier Niel et Pierre Berger au Monde. On a assuré une indépendance absolue et totale, définitive et pérenne à la rédaction du Monde.
Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes.
Vincent Bolloré.
J'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dis. Je suis démocrate chrétien, j'ai aucun projet idéologique et si j'en avais d'ailleurs, les chaînes de Canal seraient effondrées depuis longtemps. Mais je suis, je vous dis, tout doux et débonnaire. Et pas du tout un Attila.
Vous venez de dire, si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes.
Sophie Taillé-Polian, députée Génération.
Finalement, c'est une façon un petit peu bizarre de parler à la première personne pour quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ce qui passe à l'antenne, qui ne s'occupe de rien. Mais ne trouvez-vous pas étrange de parler de vos antennes pour des chaînes TNT qui sont des services d'intérêt général?
Sophie Fay, je me tourne vers vous. Les Américains disent « follow the money ». Il faut suivre l'argent, il faut remonter à qui finance la source. Est-ce qu'on peut faire la photo, tous ensemble, puisqu'elle vient de changer, hein, d'être bouleversée, de qui détient quoi dans le paysage médiatique en France ?
Oui, alors c'est pas complètement nouveau cette présence des milliardaires. Ça a commencé dès qu'on a ouvert le capital des chaînes. Vous savez que c'est le groupe Bouygues qui est propriétaire de TF1 et Canal a toujours été un groupe privé. Et on a maintenant l'arrivée d'un nouveau milliardaire. Alors avant c'était Patrick Drahi, le propriétaire de SFR et d'un groupe de téléphonie qui possédait le groupe BFM et RMC. Et comme il a besoin de se désendetter, il vient de le vendre à l'armateur. Jacques Saadé, Rodolphe Saadé, Jacques c'est son père, ouais. De CMA-CGM, qui a fait des profits records pendant le Covid avec l'envolée des taux de fret. Et puis après, si on regarde le reste du paysage, hein, on a quand même un paysage assez divers, puisque M6 est encore propriété du groupe Bertelsmann, il n'y a pas eu de fusion avec TF1, et puis il y a l'audiovisuel public qui pèse très lourd, et puis on peut se poser la question de quand on regarde les médias audiovisuels, s'il faut prendre en compte maintenant dans ce paysage les groupes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime. Est-ce que ce sont des concurrents de ces chaînes habituelles? Et puis après, il y a un autre cercle de jeu qui est la presse écrite, où là aussi on a des milliardaires.
Alors là, on peut les citer aussi.
Voilà, donc Xavier Niel, Mathieu Pigas pour...
Ça, c'est chez vous, le journal Le Monde.
Pour Le Monde, mais on a aussi Bernard Arnault qui a Radio Classique et Le Parisien.
Et Les Échos.
Et Les Échos. Et bientôt Paris Match. Et puis, il y a aussi il y a le groupe Dassault, bien sûr, qui a le Figaro. Et puis, il y a aussi des familles qui sont spécialisées dans les groupes de médias, hein, les familles qui possèdent Ouest France ou le Télégramme, par exemple. On a aussi le Crédit Mutuel, il ne faut pas l'oublier, qui a le groupe de presse régionale EBRA.
Et alors, ça, c'est très important. Ça, oui, en effet, ça fait beaucoup dans l'information, la PQR, la presse quotidienne régionale, le groupe EBRA.
C'est très important. Et c'est d'autant plus important qu'on voit, c'est l'économiste Julia Cagé qui a montré ça, qu'il y a une corrélation directe entre le dynamisme de la presse locale et la participation aux élections.
Évidemment, oui, qui détient la presse, c'est aussi, et l'existence même de la presse, la survie de la presse, c'est un enjeu démocratique. Léo Klim, évidemment, comme à chaque fois, avec vos yeux d'allemand, oui, de correspondant allemand en France, comment vous regardez ça? Est-ce que ça existe déjà, cette présence des milliardaires dans votre paysage médiatique?
Non, c'est une différence quand même très notable. Alors, pour faire court, on a évidemment aussi l'audiovisuel dans le paysage allemand qui est très bien doté, avec une redevance qui est plus du double de ce qui existait, de ce qu'elle était en France avant qu'elle soit supprimée. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien payer. Et puis après, à côté de ça, vous avez donc les médias privés. Vous aviez aussi un peu d'audiovisuel là-dedans et dans la presse écrite qui effectivement donne souvent le ton en ce qui concerne l'information généraliste. Là, vous avez une grande différence parce que elle est détenue par les entreprises qu'on peut appeler du Mittelstand, hein, donc ces entreprises familiales qui sont éditeurs.
Les Mittelstand, ce sont les grosses PME détenues par des entreprises familiales.
Ce sont
familiales.
Des PME, voilà, ouais, détenues par des familles, et avec donc la différence avec la France, c'est que ce sont, même quand on parle des grands quotidiens nationaux, des gens dont c'est le métier de base, de gagner de l'argent avec l'information et pas de faire du fret ou de vendre des téléphones mobiles. Voilà, donc ça c'est évidemment, ça change quand même complètement la perspective sur le produit à partir du propriétaire. Après, il y a des exceptions à ce modèle. Vous avez le Frankfurter Allgemeine, qui est un grand journal conservateur qui est plus ou moins auto-détenu par une fondation. Vous avez un journal, le Libé allemand, le Taz, qui est détenu par des sociétaires. Et vous avez, par exemple, le titre pour lequel moi je travaille, Der Spiegel, qui est détenu à majorité par les journalistes.
Mais j'ai l'impression que ce que vous notez, c'est que chez nous, les milliardaires, alors ça va être la prochaine étape de notre questionnement, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils font ça pour de l'argent? Chez vous, c'est clair. Enfin, les familles, les riches familles du Mittelstand, elles font ça pour gagner de l'argent. Il faut que ça gagne de l'argent.
Exactement.
Les médias.
Absolument. Alors, pourquoi est-ce que les riches milliardaires français font ça? C'est pour, au mieux, pour s'acheter du prestige qui est rattaché à un titre de presse, et au pire pour s'acheter un poids politique, un chip de négociation.
Une influence, on va dire
Une influence, même s'ils l'ont déjà par leur métier. Mais oui, et pourquoi ils font ça? C'est parce que les titres en question, les médias en question, souvent, à un moment, ont eu une faiblesse financière.
Alors c'est tout, Sophie, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin, quand on regarde la présence des milliardaires, on va poser toutes les questions, mais il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de titres qui n'auraient pas survécu s'il n'y avait pas eu en effet de l'argent privé de milliardaires qui étaient venus.
Oui, mais en même temps, on a un paysage qui est très divers. Par exemple, si vous prenez le groupe BFM RMC qui vient d'être acheté, il était très profitable. D'ailleurs, c'est pour ça que Rodolphe Saadé l'a payé très cher. Il dépense quand même 1,5 milliard pour le racheter.
C'est la télé qui est profitable, hein. C'est ce qu'on entendait dans le zapping. C'est voilà. Ça. La télé, ça marche mieux que la presse écrite.
Mais pas toutes les télés, parce que si vous prenez les chaînes de télé de Vincent Bolloré, notamment C8 et CNews, elles ne gagnent pas d'argent pour l'instant. Donc c'est très variable. C'est très variable aussi dans l'approche, et puis on voit que de plus en plus on se rapproche du modèle des fondations allemandes. Par exemple, le Capital du Monde a été cédé par Xavier Niel, qui a repris aussi les parts d'un autre milliardaire qu'on aurait pu citer tout à l'heure, Daniel Schretinsky, qui a Marianne et des grosses positions dans l'édition. Et pour donc Xavier Niel a confié toutes ses parts à un fonds de dotation, donc à une fondation, et c'est organisé pour que les journalistes, qui ont été longtemps majoritaires dans la détention du Monde, aient plus autant de pouvoir que les autres actionnaires, même plus de pouvoir, avec toute une série de garde-fous.
Oui, Léo.
Je voudrais juste rajouter, parce que sûrement qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui connaissent aussi le groupe Springer, qui est le grand groupe de presse allemande, ouais, qui édite notamment le tabloïd Bild. Ça, c'est encore une exception, une autre exception, parce qu'il a été coté en bourse et aujourd'hui, il est plus ou moins dominé par un fonds d'investissement américain. Ça, c'est une exception dans le paysage allemand.
Et là, Bild, il a une influence. C'est-à-dire que alors, Bild, oui, il n'existe pas seulement pour apporter de l'argent au fonds d'investissement, il fait aussi des campagnes, non?
Complètement. Ah oui, c'est un... Ça a toujours été, même quand il avait été majoritairement détenu par son fondateur Axel Springer, c'était un instrument politique, clairement, et ça le reste, qui fait des campagnes, qui son influence a clairement faibli, je dirais, mais ça existe. Pourquoi la question qu'on débat ici sur le fond, c'est est-ce que c'est un bien comme un autre, est-ce que l'information est un bien comme un autre. Et moi, j'aimerais bien que ça en soit un, parce que à ce moment-là, on n'aurait pas plein de gens qui seraient attirés par autre chose que l'argent. Autrement dit, je trouve qu'une entreprise de presse qui gagne de l'argent, c'est quelque chose de sain. Et les médias de presse écrite, que ce soit print ou web allemand, sont bénéficiaires et ils font très attention à ça.
En creux, vous êtes en train de nous dire il n'y aurait pas tant de débat sur la présence de ces milliardaires au capital de ces médias si tout ça était profitable.
En tout cas, il faut faire le distinguo effectivement avec l'audiovisuel, avec radio, télé d'un côté et ce qui est le journalisme texte. Donc, au fond, on parle de l'information et du journalisme. Oui, si c'était profitable, ça, on ouvrirait moins les portes. Moi, personnellement, c'est important pour moi de travailler dans un média qui gagne de l'argent parce que j'estime que ça me protège.
Alors, Sophie Fay,
les milliardaires ne vont pas dans les médias pour perdre de l'argent. En fait, quand ils essayent de faire en sorte que leur titre en gagne. Et je crois que Rodolphe Saadé, quand il reprend la Tribune ou la Provence, il essaye déjà de mettre en place des synergies, des collaborations entre les rédactions. Et ils pensent tous qu'ils vont réussir à faire des groupes profitables. Le Monde est profitable. Il y a bien un travail d'investissement aussi pour rendre ces journaux profitables qui est important. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est à un moment pour la presse, que ce soit la presse audiovisuelle ou la presse écrite, où les investissements nécessaires sont très importants. Avec cette vague de digitalisation, il faut aussi des rédactions très puissantes et très nombreuses pour pouvoir analyser les nouvelles, et tout ça a un coût. Alors après, on voit que sur la presse régionale, il y a quand même un problème dans tous les pays. On a Corinne Lenn, notre correspondante aux États-Unis, une de nos correspondantes aux États-Unis, qui a décortiqué une étude de la Northwestern University. Et on voit qu'aux États-Unis, 130 journaux locaux ont fermé l'an dernier, et qu'on a maintenant ce qu'on appelle des déserts d'information. Et dès qu'on a un désert d'information, on a moins de participation aux élections. On a aussi un effet sur l'environnement, par exemple. Il y a une étude de Pamela Campa aux États-Unis qui montre que quand on a le siège d'un journal près d'une entreprise de biens de consommation, eh bien, les émissions de matières toxiques ou les émissions toxiques de cette société réduisent. Donc, en fait, la presse a un pouvoir très, très important. Ouais. Et ensuite, finalement, il faut bien des capitaux. Donc, qu'ils soient des capitaux publics, qu'ils soient des capitaux de milliardaires, qu'ils soient des capitaux plus dispersés, comme ce qu'a essayé de faire Mediapart. C'est-à-dire, il y a quand même des personnalités fortunées qui ont aidé le média, mais on l'a protégé par une fondation. Ce qui compte, c'est la gouvernance. Et puis ensuite, ce qui compte, c'est le contrôle.
Les garde-fous, c'est ça que vous dites tous les deux. Il faut des modèles économiques avec des garde-fous qui protègent l'indépendance de la rédaction. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Surtout, Léo, il nous reste 30 secondes. Allez-y.
Surtout, je pense qu'il faut préserver le pluralisme, et je pense que le pluralisme des médias, à ce moment-là, on peut avoir même des chaînes comme CNews en France distribuer plus ou moins de l'infox et avec des relents d'extrême droite parce que c'est contrebalancé par d'autres médias.
Sophie Fay, le mot de la fin.
Oui, on a regardé, on a détaillé les sanctions de l'ARCOM à l'égard de CNews et C8. Il y en a eu plus d'une quarantaine en quelques années. Ça augmente ces trois dernières années, ça s'accélère ces trois dernières années. Il faut absolument des garde-fous. C'est pas un problème de tous les milliardaires, mais de certains milliardaires qui laissent des dérives d'information, du mauvais journalisme se faire dans leur chaîne télévisée.
Qui en font même leur business model, je dirais. Hein. Voilà, et qui espère que ça va être accepté et avoir un succès en bourse, puisque on parle du groupe Vivendi qui veut se scinder en quatre pour mieux se vendre en bourse.
Léo Klim et Sophie Fay, les enjeux de la concentration des médias dans les mains des milliardaires, ils ont fait le débat dont n'arrête pas l'écho.
Real Decreto Ley para la ampliación de derechos de los trabajadores.
Avant tout, contre la
Chine de
l'économie.
Maintenant, connaissez l'économie.
L'écho en VO, la version originale. Ce matin, on parle des augmentations de salaire au Japon.
Toyota Zidosha wa Rodo Kumiai ga motometa Chingin no yōkyū ni taishite Bangaku kaitō o shita to happyō shimashita. Mottomo takai case de wa Getsugaku de 28,440 yen no chinyage to narimasu.
Ça, c'est chez Toyota qui annonce avoir pleinement répondu aux demandes salariales des syndicats. Les hausses de salaire chinage pourront atteindre, dans le meilleur cas, jusqu'à 28 440 yens par mois. Ça fait 175 euros. Ça ne se passe pas que chez Toyota. Cette année, les Japonais reçoivent des augmentations de salaire chinage comme jamais depuis les années 90. Bonjour Karine Nishimura.
Ohayo gozaimasu, Alexandre Dassan. Bonjour tout le monde.
Vous êtes la correspondante de France Inter au Japon. La Confédération syndicale Rengo, qui réunit pas loin de 800 organisations, l'a annoncé hier. En 2024, les hausses de salaire au Japon seront en moyenne de 5,28%. Karine, ça pour les Japonais, c'est un chiffre extraordinaire ?
Oui, on n'avait pas vu de tels pourcentages de chinage depuis belle lurette. Alors pourquoi maintenant ? Eh bien parce que ce sont les traditionnelles négociations salariales de printemps, la seule saison où les syndicats semblent exister et puis plusieurs facteurs se conjuguent cette année. Le gouvernement appelle depuis des mois les entreprises à faire un geste pour que le pouvoir d'achat des ménages cesse de chuter du fait de la hausse des prix. La cherté du dollar et de l'euro face au yen japonais est responsable en partie du renchérissement des prix en magasin, mais c'est aussi grâce à ces devises élevées face au yen que les grandes entreprises exportatrices comme Toyota justement encaissent des bénéfices énormes sur leurs ventes à l'étranger et ont donc de la marge pour augmenter les salaires. Mais c'est surtout la pénurie de main-d'œuvre qui force les sociétés à élever les salaires de base et à titulariser des employés en CDD afin de les garder. Le bémol concerne néanmoins toujours des PME et TPE qui elles-mêmes ont des coûts qui flambent sans profiter, contrairement aux multinationales, de la baisse du yen, car ces petites firmes ne commercent pas en dehors du Japon. Celles-là ne peuvent pas augmenter les salaires ou pas autant.
Et ces hausses de salaire, ça veut dire que pour la banque centrale japonaise qui regarde tout ça, la donne change. Karine, est-ce que ça peut la pousser à remonter ses taux d'intérêt ?
Disons qu'elle va d'abord en finir avec les taux négatifs et quelques autres mesures qu'elle est la seule à continuer de pratiquer. Quand ? C'est la question. Dès la semaine prochaine, en avril, dans les deux cas, la prudence qui la caractérise restera néanmoins de mise, même après avoir éventuellement pris cette décision. Car son objectif est une inflation saine de 2%. Tant que ce niveau ne sera pas jugé tenable sur la durée, la Banque centrale continuera une politique plus ou moins souple, car elle veut éviter à tout prix un retour dans la déflation qui est la plaie du Japon depuis des décennies.
Karine Nishimura avec nous de Tokyo. Mmh. 9h36 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité du Mageco, c'est le secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot. Avec lui, on parlera justement de rémunération, en particulier de celle des fonctionnaires. 5 700 000 agents publics sont appelés par les syndicats à la mobilisation mardi prochain. La rémunération, c'est une des raisons de la difficulté qu'ont les services publics à recruter. Les hôpitaux, les écoles, les collectivités territoriales, on cherche des bras. Je vais donner un seul chiffre, hein. Regardez le nombre de candidats au concours. Il est en baisse depuis le milieu des années 90. Le nombre moyen de candidats pour un poste offert est passé de 16 en 1997 à 6 aujourd'hui. L'exécutif travaille donc à une réforme et en attendant, il communique, il part à la conquête des jeunes. Exemple avec le salon Choisir le service public, c'était la seconde édition cette semaine à Paris. Notre reporter Anaël Verzo y a tendu le micro dont n'arrête pas l'écho.
Je me trouve à Paris, devant la Cité internationale universitaire, et sur la façade, sur les voûtes, il y a plusieurs affiches. Le service public recrute. Plus de 70 000 offres d'emploi disponibles. C'est le salon national Choisir le service public.
Tout de la journée dans le salon Rockefeller, vous avez des pitchs de présentation employeur qui ont lieu toutes les 20 minutes.
Là, il y a les offres d'emploi qui sont affichées. Expert en sécurité, système d'information, développeur. Là, je me trouve devant le stand Région Pays de la Loire. Bonjour.
Bonjour, donc je suis Elisa Bauducel, chef du service adjoint au recrutement donc à la Région des Pays de la Loire. Vous avez combien d'offres d'emploi ?
On tourne aux alentours d'une cinquantaine d'offres d'emploi pour voir sur tout le territoire.
On va recruter sur les métiers techniques, donc au sein des lycées, donc tout le personnel de restauration, le personnel d'entretien, de maintenance, personnel informatique, les métiers d'accueil. Et puis au siège, à Nantes, on est plutôt sur des métiers administratifs. Des métiers sur lesquels on a le plus de mal à recruter, ce sont les métiers du numérique, la gestion administrative, comptable, financière. Je vois deux raisons principales, la rémunération. En tout cas, sur certains secteurs, et notamment je pense au secteur du numérique, de l'IT, eh ben forcément, face à des startups, des entreprises privées, on est moins compétitif. Et peut-être que l'image du service public aussi souffre d'une image peut-être pas forcément satisfaisante. Donc voilà, on est là aussi aujourd'hui pour revaloriser et redonner l'image attractive du service public.
72 exposants, des conférences, des ateliers sont là pour tenter de convaincre les jeunes, principale cible de ce salon. Le gouvernement est également présent à travers sa ministre du Travail, Catherine Vautrin, et son ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini.
Moi, je suis convaincu que la fonction publique peut être l'employeur le plus attractif de notre pays. Et je pense que dans nous, on a un défi qui n'était pas le nôtre il y a une quinzaine d'années, où au fond, d'une certaine façon, quand on parlait de la fonction publique, on citait un chiffre, c'est le nombre de fonctionnaires qu'on voulait supprimer. Notre enjeu aujourd'hui, c'est celui de la qualité des services publics, c'est notre capacité à rendre les services publics, à construire des politiques publiques, et donc à pourvoir les emplois qui sont aujourd'hui ouverts dans la fonction publique. Et ils sont extrêmement nombreux.
Et les jeunes, ils étaient présents et préparés.
Jennifer.
Maëlle. Vous avez quel âge ?
23 ans. On a imprimé 10 CV chacune.
Et pour quelles raisons est-ce que vous êtes intéressée par le service public ?
Je dirais que c'est plutôt servir l'intérêt général. Et moi, c'est plus l'appétence pour les relations internationales, l'étranger.
Toi ?
Oui, servir l'intérêt général, se sentir utile.
Et les salaires ? Vous avez regardé un peu ?
Un peu, mais on va dire que c'est plutôt secondaire, enfin, pour l'instant.
Jennifer a même décroché un job dating pour un poste de chef de projet éditorial au ministère de la Transformation écologique.
Donc le master, vous l'avez eu l'année dernière ?
C'est ça.
Vous avez candidaté déjà sur le poste ?
Non.
Ok, donc moi j'ai le CV que je ferai suivre.
D'accord.
Ok. Je pourrais faire suivre mes impressions déjà, mais ce ne sera que mes impressions à moi et vous aurez des entretiens avec d'autres personnes. Voilà.
Oui, merci pour les retours aussi.
Mais à une porte de là, dans le restaurant universitaire, Mathias et ses amis préfèrent manger une pizza. Le service public ne semble pas une option envisageable pour eux.
En tant que premier choix, non, pas forcément. Principalement à cause des salaires qui ne sont pas aussi élevés que dans le privé. Et puis dans le privé, on a des meilleures prospections pour évoluer au sein de notre carrière.
C'est quoi pour toi, pour vous d'ailleurs, un salaire qui correspondrait à vos compétences ?
En sortie d'études, alors personnellement, ce serait plutôt autour de 2000-2500.
Je pense. En net ?
Oh oui, en net, bien sûr.
C'est vrai que je vise un peu plus haut pour le coup, je vise un salaire de 2500-3000 euros net.
Alors, comment convaincre ces jeunes ? Améliorer la rémunération des fonctionnaires au moment où le gouvernement cherche à faire des économies ? Est-ce une équation possible ? Johan Theuré est le directeur général adjoint de la ville de Rennes et de sa métropole. Il a cofondé le think tank Le Sens du Service Public.
Ça appellera des arbitrages et des choix, mais ça ne peut pas être une équation impossible, parce qu'aujourd'hui, la fonction publique, elle est traversée par une véritable crise d'attractivité, même si la question salariale, c'est pas la seule question, mais en tout cas, c'est une préoccupation forte des candidats et aussi des agents publics en poste, et que si on n'arrive pas à résoudre cette crise d'attractivité, ça va se ressentir sur la qualité des services publics, voire même sur le rendu des services publics. C'est-à-dire que c'est potentiellement, c'est des fermetures de places en crèche, c'est des postes d'enseignants non pourvus, c'est des postes d'infirmiers en hôpitaux non pourvus. C'est une multiplicité de conséquences sur les services rendus, parce qu'il y a un défaut, une carence, une difficulté à pourvoir les postes.
Augmenter les salaires, ça veut dire plus d'argent. Or, on nous annonce des économies de budget à hauteur de 10 milliards d'euros pour cette année. Comment on fait ?
C'est vrai qu'augmenter les salaires, c'est une dépense, hein, une dépense publique. Ce qu'il faut juste avoir en tête, hein, c'est que la revalorisation de la valeur du point de 3,5% en 2022, ça a coûté, pour tous les employeurs publics, 7,5 milliards d'euros. La suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, un impôt qui a été supprimé au profit des entreprises, plus la suppression de la redevance audiovisuelle, c'est un manque à gagner pour l'État de 13,2 milliards d'euros. Donc à un moment, Il y a des arbitrages, évidemment, qui sont faits, mais c'est aussi des choix politiques qui sont faits. Donc, c'est suppression d'impôts versus revalorisation des salaires des agents publics.
Rendre la fonction publique plus attractive, l'objectif est au cœur de la réforme que prépare le gouvernement. Prévue pour février, elle est maintenant annoncée à l'automne. Comment relever ce défi ? Luc Rouban est directeur de recherche au CNRS. Il publiera dans quelques jours un article fouillé sur le sujet.
Je pense qu'il faudrait vraiment remettre à plat l'ensemble du système des salaires, des rémunérations globales, supprimer ce système de primes qui est absolument absurde, anarchique, incompréhensible. Donc tout ça, ça demande une vraie remise à plat. Il faudrait vraiment se caler sur, je pense, l'utilité sociale des métiers et redéfinir, faire un peu, je dirais, ce qui a été fait en 1946, c'est-à-dire remettre les compteurs à zéro et avoir une règle du jeu unique pour tout le monde.
Qu'est-ce qui a été fait en 1946 ?
Vous avez eu, si vous voulez, le vote du statut général de la fonction publique, mais aussi une remise à plat de toutes les conditions de travail, des conditions d'emploi, de rémunération, avec des grilles qui, à l'époque, étaient collées à la réalité sociale. Alors, évidemment, ça a beaucoup évolué, il y a eu beaucoup de lois depuis. Globalement, le système a été modifié, réformé par petites touches successives, par primes sectorielles, ou des primes de rattrapage, ou des repyramidages indiciaires. Enfin, il y a tout un jargon technique et juridique qui permet de comprendre que, dans le fond, on a rapiécé le système, mais on ne l'a pas vraiment repensé.
Est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un qui travaille, par exemple, dans la fonction publique hospitalière, à l'hôpital public, devrait, parce que ses conditions de travail sont peut-être plus difficiles que des hauts fonctionnaires, avoir un salaire revu à la hausse ou...
Oui, moi je pense, parce que je vois pas pourquoi on devrait gagner des rémunérations plutôt considérables à un certain niveau, même si vous n'avez aucune activité réelle, alors que dans des services où vraiment vous ne pouvez pas échapper à la contrainte de la demande sociale, et puis vous êtes impliqué par votre désir de servir, vous êtes rémunéré, je dirais, comme un employé peu qualifié, et évidemment ça décourage beaucoup les agents, parce qu'il suffit pas de les attirer. Au début, il faut aussi les garder ensuite.
Fonction publique, comment remédier à la crise des vocations ? C'était le reportage d'Anaël Verzeau.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité du Mag Écho ce samedi 16 mars, c'est le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Frédéric Souillot.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
FO, c'est le deuxième syndicat de la fonction publique, trois versants. Territoriale, hospitalière et dans la fonction publique d'État, vous êtes numéro 1. Hein. Frédéric Souillot, mardi prochain, les syndicats appellent les fonctionnaires à la grève pour leur rémunération. Quelques jours avant cette mobilisation, le gouvernement a donc sorti ce chiffre, près de 14 milliards d'euros seraient allés aux fonctionnaires en mesure salariale depuis 2022. Est-ce que 14 milliards, ça suffit pas ?
Alors, les 14 milliards, je ne sais pas où on les prend et où on les trouve. On parle de 3,5 points sur le point d'indice de 2022.
D'augmentation, oui.
Oui, mais avant ça, la perte depuis 2020, il n'y avait pas eu de dégel du point d'indice, puisque c'est l'expression consacrée. Donc la banquise dégèle plus vite que le point d'indice. Et le reste, bah, ça a été des primes, ou tout un tas de mesures. Il y a eu le Ségur de la santé. Mais dans le Ségur de la santé, ça c'était le versant rattrapage, les 183 euros, et avec l'inflation, ça fait 188 euros brut. Mais pour autant, il y avait deux autres versants dans le Ségur. Et aujourd'hui, les réclamations, elles sont sur les salaires, puisque que vous soyez fonctionnaire ou dans le privé, bah, vous remplissez le frigo avec votre paye, pas autre chose. Et là, 2023, rien. 2024, pour l'instant, on leur dit rien du tout.
2024, pour l'instant, on vous dit année blanche, il n'y aura pas d'augmentation générale.
Ben, écoutez, c'est ce qui était dans le reportage tout à l'heure. Les 10 milliards, c'est moins 700 millions d'euros dans la fonction publique, sur les salaires. Et puis, 2025, on nous dit que ce sera entre 15 et 20 milliards. Et dans le reportage, on expliquait très bien, si on prend l'audiovisuel public, la fin de la redevance, avant c'était un impôt fléché, aujourd'hui on dit... Fin de la redevance télé, ça passe au budget de l'État, mais peut-être que vous aurez 200 millions d'euros, mais il y aura une ponction de 20 millions. On ne sait pas à quel titre ni pourquoi. Et au bout du bout, c'est moins d'emplois et moins bien rémunérés.
Mais quand même, Frédéric Souillot, il y a la dette, il y a les déficits, il y a la croissance à plat. Est-ce que vous n'entendez pas ceux qui disent « mais la France, elle doit faire des économies, tout le monde doit faire sa part ». Les fonctionnaires aussi.
Alors les fonctionnaires, je pense que les économies les font déjà sur l'emploi. Le manque de vocation et d'attractivité sur ces métiers. À chaque fois qu'on a une crise et qu'on nous parle de la dette, les fonctionnaires se retrouvent dans le viseur. Mais dans le viseur, c'est de leur faute s'il y a la dette. Et au bout du bout, après cela, on dit « bon, ben, la fonction publique, faut qu'on la maintienne et qu'on la garde ». Je vais reprendre une expression de Nicolas Sarkozy après la crise de 2008. Ce qui nous a permis de traverser la crise, c'est notre fonction publique et nos services publics et notre système social. Mais depuis, on ne pense qu'à le dégrader, lui aussi. Donc ça ne marche pas.
Donc ça, c'est le bras de fer sur les fonctionnaires. Vous déposez donc un préavis de grève à partir...
C'est fait.
À partir de ce 19 mars, mardi, oui, et jusqu'au 8 septembre, la fin des Jeux paralympiques. La CFDT, elle a dit qu'elle ne voulait pas gâcher la fête, mais chez Force Ouvrière, apparemment, oui, vous voulez gâcher la fête ?
Alors, regardez-moi, j'aime pas gâcher les fêtes. Personne n'aime ça. On nous avait donné les mêmes arguments pour la Coupe d'Europe de football, la Coupe du Monde de rugby l'année dernière. Mais il n'y a pas de débat. On a déposé des préavis. Maintenant, on va se mobiliser le 19. Et certains, chez moi, notamment dans l'hospitalière, disent 19, 20, 21 et 22 mars. Pourquoi ? Parce que la grève reconductible, c'est le rapport de force. On ne veut pas gâcher les JO. Mais pour les JO, depuis l'année dernière, même en pleine bagarre sur la réforme des retraites, on demandait déjà à ce qu'il y ait des discussions ministère par ministère. Qu'on parle de la prime. Alors, la première.
Alors, en effet, cette semaine, on a eu des détails sur ce que l'exécutif donne aux agents de la fonction publique. Il y aura des primes pendant les JO. Hein. Il y aura des primes jusqu'à 1500 euros, des chèques en CESU, des places de crèche, plus de télétravail autorisé. Et qu'est-ce qui manque ?
Alors, ce qui nous manque, c'est qu'on parle des conditions de travail, même s'il a annoncé des places de crèche. Combien ? Pour quel ministère ? Ou quand ? Comment ? Comment est-ce qu'on se déplace pour se rendre là où nous sommes réquisitionnés ? Comment est-ce qu'on fait garder ses enfants ? Comment est-ce que on arrive à avoir un déplafonnement de son compte épargne-temps puisque pas de jour de congé pendant toute la période des JO ? Comment est-ce qu'on discute ministère par ministère ?
Et alors, il va y avoir combien d'agents publics concernés ?
76 000 au dernier chiffre, à Paris. Après, il y a les JO sur tout le reste du territoire. Et il va y avoir aussi tout ce qu'on entendait tout à l'heure sur la territoriale, puisque tout le monde voudra voir ses rues propres le lendemain matin, comme à l'époque du Covid. On disait c'était les travailleurs de la seconde ligne et tout cela, et sans eux, ça n'aurait pas été possible. Eh bien, on va les reconnaître par une prime de 500 euros. Alors,
vous voulez que les primes soient plus hautes, c'est ça ? Vous voulez plus de primes, plus hautes ?
Alors, les primes et les gratifications, c'est une chose, mais on veut des discussions sur les conditions de travail, de déplacement et d'hébergement. Puisqu'il va y avoir aussi un certain nombre d'hospitaliers qui vont devoir venir sur Paris pour pouvoir prêter main forte. Où est-ce qu'on les loge ? Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'ils se déplacent et tout cela ? Mais on a... un comité de la charte sociale des Jeux Olympiques, puisque nous sommes signataires. Et il y a un préfet interministériel. Nous l'avions vu en novembre, et on lui avait dit « Mettez les ministères autour de la table, discutons, ministère par ministère. »
Mais il y a besoin de manier l'arme de la grève, de déposer un préavis jusqu'au 8 septembre, alors qu'on a encore quelques mois pour discuter, et qu'on vous dit « Oui, oui, on va le faire. »
Alors, oui, on va le faire. Depuis l'année dernière, au mois de juin 2023, oui, on va le faire. On est le 16 mars.
À la RATP, en tout cas, dirigée par l'ancien Premier ministre Jean Castex, Force Ouvrière est le premier syndicat des conducteurs de métro. Et on a l'impression que la négociation se passe mal là aussi. Est-ce qu'il y aura des métros pendant les Jeux ?
Il y en aura, certainement. Nous avons bon espoir que la négociation se débloque à la RATP. Comme elle s'est débloquée sur les salaires à la RATP, et nous sommes signataires de l'accord sur les salaires. Eh bien, là, il y a eu un petit peu d'irritation sur les gratifications, mais aussi sur les conditions de travail, récupération et tout cela.
Donc là, vous nous annoncez que la RATP, ça va se débloquer. Vous êtes en train de nous dire ça.
Je l'espère, et je suis toujours enthousiaste et optimiste. Et quand on commence une négociation, c'est pour aboutir à un accord.
Allez, Frédéric Souillot, il y a encore d'autres bras de fer en perspective avec l'exécutif et Bruno Le Maire qui pense que l'État devrait reprendre la main sur l'assurance chômage de manière définitive. Les syndicats, vous vous occuperiez des salariés, puis l'exécutif, le gouvernement, des demandeurs d'emploi. Pourquoi ça serait une mauvaise idée ?
Ben écoutez, en 1958, celui qui avait proposé l'assurance chômage au gouvernement, l'assurance chômage avec une gouvernance paritaire, il s'appelait André Bergeron. Et André Bergeron est un de mes prédécesseurs. Mmh. Et à l'époque, le gouvernement avait réfléchi en disant « Bon, le taux de chômage était moins de 2%, est-ce que ça vaut le coup ?» Et on l'a mise en place. Et depuis 1958, on signe des conventions sur l'assurance chômage. Bruno Le Maire, c'est pas le ministre de tout. Il est juste ministre de l'économie. Si on doit avoir un débat sur l'assurance chômage... Ben c'est la discussion, elle doit se passer au ministère du Travail. Ben... Ce n'est pas des prérogatives de Bruno Le Maire.
Alors justement, hein, le ministre de l'économie s'exprime plus que la ministre Catherine Vautrin, avec des idées apparemment différentes. Bercy et le ministère du Travail, c'est un peu deux salles, deux ambiances, dit-on à la CFDT. Votre homologue de la CFE-CGC, il dit carrément qu'à l'évidence, la ministre du Travail, il n'y en a plus. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ?
Non, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien... Si vous m'aviez posé la question pour le prédécesseur de Madame Vautrin, je vous aurais dit, ben, en deux ans et demi,
Olivier
je l'ai eu
Dussopt.
Deux fois. Catherine Vautrin, en deux mois, on a eu des bilatérales, on échange, on travaille la pratique contractuelle et conventionnelle, et elle fait confiance à la négociation, notamment sur l'accord national interprofessionnel que nous avons démarré.
Bon, donc Bruno Le Maire s'exprime beaucoup, mais vous dites que Catherine Vautrin, elle vous parle.
Ben, non seulement elle nous parle, mais elle travaille.
Allez, j'en arrive au Code du travail et à l'actualité. Lundi prochain, les députés devraient examiner l'amendement qui aligne le Code du travail français sur le droit européen pour les congés payés. Même les salariés en arrêt maladie non professionnels, c'est le point 1, vont désormais acquérir des congés payés. Frédéric Souillot, expliquez-nous, est-ce que c'est un progrès ?
C'est un progrès, c'est une avancée. À l'époque, quand on en avait parlé aux employeurs en 2007-2008, ils nous avaient dit « Ah, c'est pas la priorité de discuter de ça ». Il y a eu une directive européenne et la Cour de cassation a donné raison aux organisations syndicales. Alors, on n'y était pas toutes, mais nous avons été en justice pour l'application de la directive européenne.
Bon, apparemment, il y a eu quand même beaucoup de bras de fer après pour savoir jusqu'où on allait donner des congés payés. J'ai l'impression que tous les syndicats ne sont pas satisfaits.
Ben, la lecture qu'en a l'exécutif, et on verra avec le Parlement, parce que pour le coup, on va aller faire déposer des amendements par des partis. Eh bien, la lecture, elle est simpliste et c'est la plus réduite. Elle dit qu'on acquérera des congés payés sur une période de 15 mois. Le délai légal, c'était 3 ans. Alors, les employeurs ont dit que ça va coûter 2 milliards ou 4 milliards. Ben, si on s'était mis autour de la table, on aurait certainement trouvé un accord. Quand on est en arrêt maladie non professionnel, pourquoi on perdrait ses congés payés ? On va continuer la bagarre au Parlement et puis, quand ce sera sorti du Parlement... Bah, faudra que ça passe au Conseil d'État. Et le Conseil d'État qui contredirait la Cour de cassation, bah, ce sera deux pots de fer l'un contre l'autre.
Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, merci d'avoir été au micro d'On n'arrête pas l'écho.
Merci Alexandre Ben Saïd.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, trois questions différentes ce matin pour vous. Et on commence avec celle de Camille, qui a eu la bonne surprise de découvrir que l'employeur chez qui elle avait fait son alternance il y a 4 ans avait mis en place un plan d'épargne salariale. Alors depuis, elle a quitté l'entreprise et elle vous demande, peut-elle débloquer cette somme avant les 5 ans réglementaires et ce montant sera-t-il imposé ?
Normalement, les sommes provenant de l'intéressement, de la participation ou autres qui sont placées sur un plan d'épargne entreprise sont effectivement bloquées pendant 5 ans. Camille, vous pouvez les récupérer avant, mais elles seront soumises à l'impôt sur le revenu. Il y a quand même des cas de déblocage anticipé qui vous permettent d'échapper au fisc. L'achat d'une résidence principale, un mariage, un PACS, un divorce, la naissance du 3e enfant et, on ne le sait pas forcément, mais depuis 2020, les violences conjugales font aussi partie de ces dérogations. Ce n'est pas fini, vous pouvez également toucher cet argent si vous êtes surendetté ou en invalidité. Et bien sûr, Camille, si le contrat de travail est rompu. plus. Dès lors qu'il y a licenciement, démission, arrêt d'un CDD ou d'un contrat d'alternance, vous pouvez débloquer ce compte. Et dans ce cas-là, c'est rare, mais il n'y a pas de délai pour faire la demande. J'imagine que c'est une bonne nouvelle que je vous annonce, Camille, mais j'en profite pour rappeler que tout le monde n'est pas couvert par un dispositif d'épargne salariale. C'est le cas d'un salarié sur deux. Et dans les entreprises de moins de 50 salariés, on n'en compte que 18%.
Deuxième question, celle de Stéphanie, qui a plutôt, elle, vécu une mauvaise surprise avant de se voir accorder le chômage partiel. Son usine a fermé 3 jours et la direction a obligé les salariés à solder leurs jours de congé. Est-ce légal, vous écrit-elle ?
Eh bien oui, désolée Stéphanie, l'entreprise qui ferme temporairement a le droit de vous imposer de prendre des congés. Elle doit évidemment respecter un délai de prévenance et en informer chaque salarié. Mais c'est une façon aussi d'éviter que les salariés y perdent trop financièrement. Car pour la suite, Stéphanie, avec le chômage partiel, vous ne toucherez plus que 60% de votre salaire brut.
On termine avec la question malicieuse de Delphine. Elle a appris, notre auditrice, que Gabriel Attal et Elisabeth Borne vapotaient à l'Assemblée nationale. Cela lui donne-t-elle le droit de le faire au bureau ?
Non, Delphine, c'est toujours non. La cigarette électronique est interdite dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Je sais, on pourrait considérer que l'hémicycle en est un, mais vous avez peut-être la chance de ne pas être en open space. Et là, vapoter dans un bureau individuel, c'est autorisé, sauf si votre employeur s'y oppose. Attention, braver l'interdiction, ça peut coûter cher, jusqu'à 150 € d'amende.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.